Merci Dominique Bondu. Bonsoir à tous. Le malaise dans la société, une clarification sociologique, en arrière-plan, ou en même temps plutôt, il s'agit d'une clarification sociologique sur l'individualisme. Parce que le malaise dans la société, c'est moins un point de départ de l'analyse sociologique dont le sociologue aurait à explorer les causes, qu'un problème qui est à élaborer et à clarifier. Je vais commencer par une citation d'Émile Durkheim qui date de 1906. Le sentiment de l'obligation varie sans cesse et même si l'on perd de vue cette variabilité, on peut croire qu'il disparaît simplement parce qu'il se modifie. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans la société française, aujourd'hui au début du XXe siècle. Moins d'un siècle plus tard, de nombreux essais proclament le déclin du vivre ensemble, voire la fin de la soumission à l'obligation sociale, et de sombres formules sont apparues depuis une bonne vingtaine d'années, sous la plume de philosophes, de sociologues, de psychanalystes, etc. Des formules comme « nouvelle économie psychique », « crise du symbolique », « sujet en état limite », « mutation anthropologique », « mélancolisation du lien social » et d'autres expressions encore qui désignent un mal qui atteint la société et l'individu et dont le foyer est une transformation de l'individualisme imprégné par la notion d'autonomie. Donc le foyer, c'est l'autonomie, l'objet, c'est le vivre ensemble et le symptôme, la souffrance psychique en masse des individus. Alors, disparition ou variabilité. Le point sur lequel je veux insister, c'est qu'on est là confronté au mal démocratique par excellence, qui est celui de la déliaison sociale. On peut formuler les choses autrement, c'est l'obligation sociale qui serait en crise. Le conditionnel est évidemment très important. L'obligation étant un principe central des sociétés démocratiques, parce qu'on ne peut obliger que des êtres libres, et des êtres libres ne peuvent être que des égaux. L'obligation est ce par quoi une volonté s'engage librement. C'est l'invention rousseauiste. Alors, par rapport à ça, on a une série de termes, essentiellement autour d'une sorte de triangle de mots, individualisme, autonomie, malaise. Ces trois notions semblent désormais liées et renvoient à une inquiétude forte portant sur les relations entre le chacun et le commun. Pour parler encore en termes rousseauistes, les volontés particulières se font valoir aujourd'hui avec une telle force contre la volonté générale que celle-ci en devient insaisissable, irreprésentable. Ces trois notions, individualisme, autonomie, malaise, ont convergé vers une transformation notable, à savoir le fait que la souffrance psychique est devenue une souffrance sociale. C'est-à-dire une souffrance dont, disons, l'étiologie réside dans la société, une pathologie sociale. Donc, tout ça serait causé par les transformations de la société. Disons que l'idée qui est sous-jacente à l'ajout de l'adjectif social au substantif pathologie, c'est que ces pathologies sont le produit de relations sociales et qu'en conséquence, elles révèlent quelque chose de nos mœurs, de nos manières de vivre et d'agir en société et qu'il y a une leçon morale, sociale et politique à tirer de ces pathologies. Je vais essayer de ne pas perdre mes feuilles. Je pense qu'à chaque tournant, ça sera un peu difficile. Cette leçon tourne autour d'un problème qui est celui du mal social, d'un mal qui est causé par des relations sociales mauvaises, perverties, injustes ou oppressives. Et donc, souffrance sociale, le style des symptômes nous révèle un tour sombre de l'évolution des sociétés contemporaines. Donc, souffrance psychique, souffrance sociale, ça veut dire que, simplement dit, la souffrance psychique est sortie de la psychopathologie pour devenir une souffrance sociale en se référant au vivre ensemble et faisant signe vers l'injustice sociale. Déclin du vivre ensemble, souffrance sociale, injustice forment un tout à travers lequel est formulée une configuration individualiste du mal social qui fait l'objet donc d'une très abondante littérature. Donc je crois qu'il faut un peu clarifier cet ensemble. En fait, quand je dis malaise, souffrance sociale, pathologie sociale, évidemment, ces notions sont liées et forment, disons, une certaine représentation de nos problèmes. Donc clarifier ces notions pour mieux en situer les enjeux, d'abord pour deux raisons. La première raison, c'est que elle repose, cette notion de pathologie sociale, de souffrance sociale, de malaise, sur des problèmes réels et tout à fait concrets de la vie sociale d'aujourd'hui. Ce sont ceux rencontrés par les professionnels confrontés à des populations chez lesquelles problèmes sociaux de pauvreté, d'inégalité, d'injustice, d'une part, et problèmes psychologiques ou psychopathologiques, d'autre part, sont totalement intriqués. La seconde raison, c'est que ces professionnels, quand je parle de ces professionnels, il s'agit de cliniciens, de psychiatres, de psychologues, de travailleurs sociaux, d'infirmiers, voire d'agents de médiation, etc. La seconde raison, c'est que ces professionnels, donc qui travaillent dans les institutions sanitaires et sociales pour la plupart, les institutions de santé mentale, font en permanence référence aux transformations institutionnelles et normatives de la vie sociale, et leurs questions tournent autour des relations entre les changements dans la symptomatologie, dans les symptômes, et les changements dans la normativité sociale. Et donc, c'est de telles questions qui sont posées à partir, disons, des clientèles qui viennent, c'est de telles questions, en fait, posent un problème de nature anthropologique tout à fait classique sur les relations entre symptômes et culture, dans lequel l'enjeu est, je pense, la valeur morale et politique de l'individualisme contemporain. Alors, ces souffrances sociales, souffrances psychiques, dépression, addiction, traumatisme, hyperactivité de l'enfant et d'autres mots encore, il faut le préciser, ce sont des sujets qui sont toujours matière à débats sociaux. Je veux dire qu'il n'est pas simplement question de maladies à soigner, et bien souvent on s'interroge sur leur caractère de maladie. Il s'agit de mots dans lesquels nos modes de vie sont en cause d'une manière ou d'une autre. Et ces sujets concernent justement la valeur de nos relations sociales à l'école, dans la famille, au travail, et par extension dans la société en général. Donc ces mots touchent les gens évidemment individuellement, mais ils ont une caractéristique, c'est qu'ils révèlent un mal commun qui est de nature sociale ou sociopolitique. Cette question de la valeur des relations sociales, qui est en réalité celle de leur valeur humaine, n'est donc pas du tout à mettre de côté, elle est une caractéristique intrinsèque de ces sujets. Elle fait partie de leur grammaire. Alors, ma question, c'est, au fond, quel type d'inquiétude cherchons-nous à mettre en forme à travers ces mots ? Alors, pour clarifier ce qui se joue autour de ces idées et mieux comprendre cette sensibilité collective, je vais développer deux idées. La première, c'est qu'à travers la vogue de la souffrance sociale, on a plutôt affaire à un changement de valeur sociale de la souffrance psychique qu'à une causalité sociale, donc, de ces symptômes. Un changement de valeur et de signification de la souffrance psychique. Deuxièmement, ce changement de valeur permet de formuler une inquiétude qui est justement une inquiétude propre à l'individualisme et qui concerne la déliaison sociale. Évidemment, pour comprendre ce que cette inquiétude a de spécifique à nos sociétés, aux sociétés individualistes, il faudra préciser en quoi consiste l'individualisme. Pardon. Alors, dans une première partie, j'ai appelé une première partie, pathologie sociale, souffrance sociale, la condition autonome est-elle un malheur collectif ? Et la deuxième partie s'appelle « D'une sociologie individualiste à une sociologie de l'individualisme ». Alors, la condition autonome comme malheur collectif, enfin, c'est une question. En gros, il faut d'abord donner le contexte normatif et global le contexte global normatif et de valeur. En gros, je dis que nous sommes entrés depuis 4 ou 5 décennies dans une période que j'appelle le tournant personnel de l'individualisme. tournant qui est caractérisé par une combinaison des valeurs de l'autonomie et des questions émotionnelles à travers l'explosion de la santé mentale. Alors, premier aspect de la configuration individualiste contemporaine, c'est la généralisation des valeurs et des normes de l'autonomie à l'ensemble de la vie sociale et la subordination des valeurs de la discipline. L'autonomie, disons telle qu'elle se donne aujourd'hui dans la vie sociale, c'est un système qui se caractérise par des valeurs et des normes de choix, essentiellement fondées sur la propriété de soi, et des valeurs et des normes d'initiative individuelle se référant à la nécessité d'être proactif dans l'action et pas seulement réactif. Normes, valeurs de choix et d'initiative individuelle, elles se manifestent à travers trois aspects qui sont l'indépendance, la compétition et la coopération. Alors, ces éléments peuvent être contradictoires, complémentaires, ça dépend des situations, mais disons que l'autonomie d'aujourd'hui, c'est le système de relations englobant toutes ces notions. Ça, une première conséquence, c'est que dans ce contexte, la notion de discipline change de sens. Elle était un moyen d'obtenir de l'obéissance mécanique, pensez à « Surveiller et punir » de Michel Foucault, donc publié en 75, qui en fait la généalogie. Elle était un moyen d'obtenir de l'obéissance mécanique. Elle est désormais subordonnée à la visée d'obtenir de l'initiative individuelle et donc des capacités à s'auto-motiver. Elle tend donc à l'autodiscipline. Et cette dynamique, cette transformation met au premier plan la notion de responsabilité au sens, enfin, la responsabilité de l'agent à l'égard de ses actions, à savoir que la dépendance entre l'agent et l'action est plus essentielle que pendant, disons, le moment disciplinaire. Bon, premier aspect, rapidement dit, bien sûr. Deuxième aspect, qui est intriqué dans l'autonomie, il s'agit de la centralité des questions de santé mentale aujourd'hui, qui ne sont plus tout à fait l'ancienne psychiatrie, c'est-à-dire s'occupant de maladies mentales dans des institutions qu'on appelait les asiles ou les hôpitaux psychiatriques, même si elle inclut aussi, évidemment, tout ce paquet de problèmes. Donc, centralité de la santé mentale et, à travers la santé mentale, un souci récurrent pour les émotions, le contrôle émotionnel et pulsionnel. Alors, la santé mentale, qu'est-ce que c'est? Je vais le définir très rapidement. C'est plus simplement, disons, un secteur particulier de la société traité par une discipline qu'on appelle la psychiatrie, une branche de la médecine. Mais c'est un souci aujourd'hui transversal à toute la société qui mobilise des professions multiples pour résoudre des problèmes les plus hétérogènes. Et donc, on a une nouvelle morbidité qui est apparue, morbidité donc qui ne relève plus du domaine particulier de la maladie mentale, disons de la folie, mais de celui plus général de la vie sociale. Ce domaine s'est institué comme un enjeu majeur dans le travail, l'éducation, la famille, pensez donc la souffrance au travail, le burn-out, etc. Dans l'éducation, l'hyperactivité de l'enfant, les questions de phobie scolaire, etc. On pourrait donner toute une série d'exemples de syndromes qui viennent, coaguler des problèmes des diverses institutions de nos sociétés. Alors, cette nouvelle morbidité, à mon avis, met en lumière deux changements majeurs. Premier changement, le statut du symptôme. Le trouble mental, aujourd'hui, est bien souvent l'expression d'une difficulté qui est liée à la socialisation, et les critères du fonctionnement social deviennent essentiels dans, disons, la santé de l'individu. Le deuxième changement, c'est que le style du malheur se modifie. À savoir que ce qui domine, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes, de ne plus pouvoir se mobiliser pour assurer, ce sont des éléments qui dominent le tableau. En gros, c'est la capacité à agir et à se projeter dans l'avenir qui est au cœur des difficultés du sujet. La santé mentale, alors est alors disons une sorte d'équivalent de la bonne socialisation, parce que être en bonne santé mentale, c'est montrer suffisamment d'autocontrôle émotionnel pour être capable d'agir de soi-même de façon appropriée dans toutes les situations de la vie. Donc, autrement dit, de s'auto-activer en montrant suffisamment d'autocontrôle émotionnel. Auto-activation et autocontrôle sont interdépendants. Je signale en passant qu'il y a un sociologue à lire sur ces questions, c'est Norbert Elias. Alors, autodiscipline, automotivation, autocontrôle, autorégulation, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne le comportement individuel, la mobilisation des dispositions personnelles, bref, ce qu'on appelle la personnalité ou le caractère, devient un enjeu crucial du bon fonctionnement des relations sociales comme de la socialisation des individus. Et voilà pourquoi ces questions d'autocontrôle émotionnel et pulsionnel sont bien plus décisives que lorsque l'autonomie, disons, était une valeur subordonnée dans nos sociétés. Alors, dans ce contexte, nos relations sociales se formulent elles-mêmes de plus en plus dans un langage des affects et des émotions qui se distribuent entre le bien de la santé mentale et le mal de la souffrance psychique. Par exemple, vous voyez le cas dans les entreprises aujourd'hui, dans de nombreux cas où il y a un conflit d'entreprise, la situation des salariés est définie comme une situation de souffrance. Donc, ça, c'est le nouveau vocabulaire. Et ce nouage entre autonomie et émotion affecte se formule en France justement dans les termes d'un malaise dans la société. En effet, nombreux sont ceux qui se demandent si, au fond, on ne fait pas face à une transformation de l'individualisme qui se retourne et contre la société et contre l'individu lui-même. Il faut refaire société, clame-t-on tous les jours dans l'Hexagone. L'autonomie et l'individualisme sont chapeautés par l'idée de malaise, qui est un mot clé de la société française, c'est-à-dire de la façon dont elle se représente ses problèmes. C'est pourquoi je parle de société du malaise à propos de la France et non des États-Unis avec lesquels je l'ai comparé. Alors, je ne vais pas faire d'exposé sur l'individualisme américain parce que ça serait évidemment beaucoup trop long. Hein. Mais disons que pour moi, malaise dans la société, c'est un titre politique ou éventuellement psychanalytique. Société du malaise, c'est un titre sociologique, et plus précisément, je dirais que c'est une formulation durkheimienne. Pourquoi ? Parce que pour Durkheim, une société est faite de représentations collectives, hein, qui imprègnent la vie sociale, c'est-à-dire de représentations communes partagées. Et le malaise dans la société est une représentation que la société française se donne de ses problèmes majeurs. Alors, il faut dire en quoi il consiste, ce malaise, en quelques mots. Alors, le malaise, il se résume dans une double idée. D'une part, le lien social s'affaiblit, hein, on est dans la question de l'être ensemble, hein, le lien social s'affaiblit, mais en contrepartie, l'individu se voit surchargé d'épreuves et de responsabilités qu'il ne connaissait pas auparavant. Et la preuve de ce malaise, où est-ce qu'elle se trouve ? Eh bien, justement, elle se trouve dans ces pathologies sociales, dans ces maladies du lien qui se développent dans notre monde moderne et tourmentent l'individu. Ça m'amène à dire qu'il y a une division de la société française sur la valeur sociale et morale de l'autonomie. Et c'est pour ça aussi que je l'ai comparé avec la société américaine, parce que l'autonomie unit les Américains alors qu'elle divise les Français. Et donc, de la comparaison entre ces deux sociétés individualistes, entre deux variantes de l'individualisme, on peut peut-être tirer quelques enseignements sur chacune de ces sociétés, l'une servant à mettre en perspective l'autre. Alors, mon hypothèse sur cette division de la société française, c'est qu'elle tient à une idée commune de l'autonomie comme un système de valeurs qui renvoie l'individu à lui-même et aux forces du marché, et non comme quelque chose de collectif. Plus précisément, les choses, je pense, se sont passées en deux temps. Dans un premier temps, l'aspiration à l'autonomie qui s'est développée dans la société française comme dans toutes les sociétés, disons grosso modo, après la Deuxième Guerre mondiale, était une aspiration à cet aspect de l'autonomie qui est l'indépendance. Notamment l'indépendance à l'égard des contraintes sociales en vue d'avoir une vie plus accomplie. Mais l'autonomie qui s'est progressivement concrétisée comme notre condition commune, disons entre les années 70 et les années 80, elle est certes indépendante, c'est par exemple la possibilité morale de choisir la vie qu'on entend mener, mais elle est aussi compétition et coopération. Particulièrement dans le monde de travail, mais le travail est l'épicentre des problèmes. Il tire les autres. L'indépendance, disons, concerne plutôt le domaine des mœurs. Dans le domaine de l'action, c'est plutôt la compétition et la coopération qui sont la dure réalité de la condition autonome. Ce qui veut dire, dans le passage de l'aspiration à la condition, c'est-à-dire dans le passage d'une position subordonnée dans la hiérarchie des valeurs et des normes à une position de valeur suprême, la notion d'autonomie a changé de signification. Et je pense que c'est dans ce changement qu'apparaît la division de la société française. Alors, cette division, je vais aller très vite sur ce point, parce que je voudrais simplement préciser dire une ou deux choses sur le récit français de l'autonomie. Cette division se manifeste à travers deux grands pôles qui font deux facettes du récit français de l'autonomie. Le premier pôle, c'est celui que j'appelle de la réaction républicaine. En gros, l'autonomie est allée trop loin. C'est le thème de l'individu sans limite, de la nouvelle économie psychique, de la jouissance sans entrave, etc., etc. En gros, pour cette approche, on a affaire, je pense, à une crise des rapports État-individu. Et là, dans ce récit, ce sont plutôt les concepts lacaniens, comme celui d'ordre symbolique, qui sont employés dans une extension sociologique que Lacan, à ma connaissance, n'a jamais prônée. Disons que l'auteur clé, bon évidemment il y a beaucoup de psychanalystes, mais pas seulement, il y a pas mal de sociologues aussi dans ce récit. J'ai vu d'ailleurs des ouvrages sur la table là-bas. Mais l'auteur clé, disons, de cette version du récit français de l'autonomie est le philosophe Marcel Gauchet. Disons que là, on a un scénario assez traditionnel de l'antilibéralisme français. Le deuxième pôle, je l'appelle le pôle du progressisme individualiste ou du nouveau progressisme individualiste, pour lequel, là c'est, l'analyse est un peu différente, c'est le nouveau capitalisme qui a en gros récupéré la subjectivité individuelle dans une perspective d'instrumentalisation de la créativité des travailleurs, etc. Et donc pour ce deuxième pôle, l'autonomie n'est pas allée trop loin, le projet d'autonomie garde toute sa valeur, il reste un projet à accomplir, et là je pense que les concepts clés c'est le couple reconnaissance-souffrance sociale qui sert de clé d'analyse. Et je pense que l'auteur de référence, qui n'est pas français mais qui est très influent dans une certaine sensibilité sociologique et philosophique française, c'est le philosophe allemand Axel Honneth. Alors, ces deux pôles du récit contemporain de l'autonomie sont, je crois, représentatifs d'une difficulté, justement, à se représenter l'autonomie comme quelque chose de commun, comme quelque chose de collectif. Il me semble que ces analyses sont l'expression d'une psychologie collective, disons le malaise français, on ne fait plus société, au sens où elle formule dans un langage savant, c'est-à-dire qui intrigue philosophie, sociologie, analyse politique, les idées communes circulant au quotidien au sein de la société française. Mais ce faisant, elle reste prisonnière de cette psychologie. J'essaierai de la dépasser, évidemment, au cours de l'exposé. Sur quoi porte le point de crispation ? Il me semble que le point de crispation porte sur l'opposition entre la notion de personne, de personnalité ou de personnel et la notion d'institution. L'appel à la personnalité, notamment dans le travail flexible, hein, qui est vraiment tout à fait central dans la réflexion sur le sujet, l'appel à la personnalité apparaît comme le résultat d'un processus que de nombreux sociologues, philosophes, etc., etc., ont appelé un processus de désinstitutionnalisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, au fond, on peut poser la question de l'autonomie sous forme d'une équation. Autonomie renvoie donc à quelque chose de personnel, hein, c'est toujours le préfixe auto, hein, ou self en anglais, self-government dans le sens là. Autonomie renvoie à personnel, mais personnel nécessairement veut dire psychologique, et psychologique veut dire nécessairement privé. Donc c'est l'idée, la désinstitutionnalisation, elle s'exprime par une psychologisation des relations sociales et finalement une privatisation de l'existence. C'est la montée de l'homme privé aux dépens de l'homme public. Autonomie égale donc personnel, psychologique, privé, c'est l'équation du déclin de l'institution. C'est-à-dire l'idée que, au fond, la vraie société c'était avant, quand il y avait de vrais emplois, de vraies familles, une vraie politique, une vraie division de la société sur des enjeux clairs, etc., etc. La vraie société, c'était avant. Bon, je pense qu'il faut évidemment aller... C'est un peu court. C'est une représentation. Or, cette série personnelle, je pense, cette série personnelle, psychologique, privée, voilà ce dont nous devons briser l'évidence pour mieux rendre compte de la société de l'homme individu. Il faut alors dépsychologiser le problème de l'individualisme. Ce n'est pas parce que la vie humaine apparaît plus personnelle aujourd'hui qu'elle est moins sociale, moins politique ou moins institutionnelle. Elle l'est autrement. Et là où Durkheim aurait décrit la variation de l'obligation sociale, les partisans du récit français de l'autonomie, réactionnaires comme progressistes, y ont vu un déclin de l'obligation sociale. Alors, ce topos est devenu fort en vogue, et les sociologues qui la théorisent, les sociologies qui la théorisent, que ces sociologies soient formulées par des sociologues professionnels, des psychanalystes, des philosophes, des neuroscientifiques, tout ce que vous voulez, elles ont un trait fondamental, c'est que ce sont des sociologies individualistes. Ce sont des sociologies individualistes au sens où elles restent prisonnières du grand problème qui condamne l'individualisme à la confusion, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'individualisme impliquerait une opposition entre l'individu et la société. Disons que cette opposition peut être, disons telle qu'elle est formulée depuis en gros deux siècles, hein, c'est post-révolutionnaire, cette opposition peut être formulée sous la forme d'une équation, montée de l'individualisme égale déclin de la société. Déclin de la société ou de ses équivalents, le lien social, la solidarité, les repères, la politique, etc. C'est-à-dire équivalents qui renvoient tous à la vie en commun qui, effectivement, est la condition de l'homme. La souffrance psychique, en tant qu'elle est devenue une souffrance sociale, donc érigée au statut d'une pathologie de la société, est aujourd'hui le test mesurant le degré de ce déclin. Alors, ce que je dis à partir de là, c'est que la crainte de la dissolution sociale est un trait de ces sociologies individualistes, mais c'est aussi parce que c'est une idée commune à nos sociétés. C'est une idée sociale. Il faut donc à la fois intégrer cette crainte comme un trait caractéristique de nos sociétés, un trait social justement, mais la dépasser comme sociologie de l'individualisme. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans ma deuxième partie, donc qui espère être aussi une clarification sur ce qu'est l'individualisme et la dualité, l'ambivalence de l'individualisme. Donc, que j'appelle de la sociologie individualiste à la sociologie de l'individualisme. Alors, je démarre par une hypothèse sur la souffrance psychique, bien entendu, puisque je dois revenir sur tous ces points. Donc je dis qu'il s'agit aujourd'hui d'un changement de statut social de la souffrance psychique. En gros, le fait que l'expression de problèmes, de conflits, de dilemmes dans les termes de la souffrance est aujourd'hui une déclaration qui compte, qui a une valeur telle qu'elle est une raison d'agir en elle-même. Donc, Au fond, l'alternative sociologique à cette idée qu'il y a une causalité sociale de la souffrance psychique et qu'elle rend compte de l'affaire, l'alternative sociologique, ça consiste alors à décrire comment nos manières d'agir et de subir en société changent de façon interdépendante en étant imprégnées par les représentations collectives de l'autonomie. Et c'est bien d'imprégnation dont il faut parler, parce que les représentations collectives, les idées communes, les idées agissantes, ne nous contraignent pas de l'extérieur. Ce sont des attentes qui nous obligent en nous affectant totalement. Marcel Mauss l'a lumineusement souligné. Je cite un extrait d'un article de Mauss. Nous ne pouvons décrire l'état d'un individu obligé, c'est-à-dire moralement tenu par ses obligations, par exemple un point d'honneur, ou pour ajouter par sa conscience personnelle, que si nous savons quel est l'effet physiologique et non seulement psychologique de cette obligation. Le social traverse, n'est pas extérieur à l'individu, il le traverse entièrement et il se voit, comme dit Mauss, à la réaction physiologique. Pour prolonger, je dirais que parce que nous sommes à la fois les agents et les patients de la vie sociale, il me semble qu'au changement dans la manière d'agir en société qui sont coagulés par la notion d'autonomie, correspondent des changements dans la manière de subir en société qui se donnent aujourd'hui dans le concept de souffrance psychique, c'est-à-dire un concept de souffrance psychique et dont l'usage s'étend fortement. À savoir que la souffrance psychique était une raison éventuelle de se soigner, elle est devenue une raison d'agir sur des relations sociales perturbées. Ça veut dire que, pensez simplement au monde du travail, ça veut dire que, à mesure que la santé mentale passait au centre de la vie sociale, on a assisté à la généralisation d'un nouveau jeu de langage permettant de donner forme, éventuellement de résoudre, de donner forme à des conflits qui sont liés aux relations sociales. Et ce jeu de langage, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il met en relation le malheur personnel et les relations sociales perturbées. Encore une fois, pensez au monde du travail, pensez au suicide au travail. Et donc, à unir le mal individuel et le mal commun à l'aune, évidemment, de la souffrance psychique. Alors, c'est un effet pratique extrêmement important. C'est qu'il permet l'expression socialement réglée de la plainte. C'est-à-dire que la plainte, c'est un acte de parole. Un acte de parole, ça veut dire qu'elle est adressée à des interlocuteurs qui doivent la comprendre et éventuellement l'utiliser pour agir. Ma conclusion sur ce point, c'est qu'il est nécessaire de remplacer l'idée individualiste que la société cause des souffrances psychiques par l'idée sociologique pour laquelle la souffrance psychique est aujourd'hui une forme d'expression obligatoire du mal social, au sens où Marcel Mauss parle d'expression obligatoire des sentiments dans son article fameux qui date, je crois, de 1926. Donc, expression qui permet d'agir dans la vie sociale. Et là, je crois, se situe la véritable nouveauté de la souffrance psychique. Alors, ce changement de statut social de la souffrance psychique implique que des pathologies individuelles d'un certain genre font celles qu'on appelle les pathologies des idées de la vie de relation, que sont les pathologies mentales, sont devenues des affections sociales, c'est-à-dire des malheurs personnels qui trouvent leur signification et leur raison d'être dans les désordres du groupe, ceux de l'entreprise, de la famille, de la politique, voire du monde en général. Et de quoi s'agit-il à travers cela ? Eh bien, il s'agit d'un langage de l'infortune, d'un langage de l'adversité qui unit le mal individuel au mal commun. Et je dois préciser que ce langage n'est pas du tout spécifique à l'individualisme. Toutes les sociétés en possèdent, car partout, il faut des jeux de langage pour mettre en forme l'inquiétude humaine. Dans nos sociétés, Ce langage, je crois, permet de formuler l'inquiétude individualiste même, qui est précisément celle de la déliaison sociale. Et au fond, ça m'amène, si vous voulez, non pas à faire une critique dans tout cet exposé de l'idée de malaise dans la société, mais plutôt de situer précisément cette manière d'envisager les choses, c'est-à-dire d'essayer d'en faire ressortir la part de vérité. Alors, pour comprendre donc les enjeux de cette reformulation de l'inquiétude individualiste de la déliaison sociale, évidemment, il est nécessaire de préciser au moins en quelques mots ce qu'il faut comprendre par individualisme. Le problème principal que pose cette notion, se situe justement à la racine de la compréhension française de l'autonomie. En gros, le problème principal, il est extrêmement simple. Il tient à ce qu'on prononce toujours le mot individualisme comme s'il s'agissait de quelque chose d'individuel, c'est-à-dire d'identifier individualisme à individu, alors qu'il s'agit d'un esprit commun. Je vais encore une fois me référer à Durkheim, parce qu'en fait ce sont des choses très anciennes. Durkheim, c'est un article de 1898, d'ailleurs un article presque de circonstance, puisque c'est sur les intellectuels et l'affaire Dreyfus, et les intellectuels ont été accusés par l'extrême droite, justement, d'individualisme forcené, et donc de détruire la société. Et Durkheim écrit dans cet article qu'il faut arrêter de confondre individualisme et égoïsme. Il dit, je le cite, « L'individualisme, c'est la glorification non du moi, mais de l'individu en général. Il a pour ressort non l'égoïsme, mais la sympathie. » Bon, et je dirais, s'il l'avait écrit aujourd'hui, peut-être aurait-il écrit l'empathie aussi, parce que le concept d'empathie, à l'époque, pour aller très vite, est inclus dans celui de sympathie. En tout cas, il commence à apparaître à la fin du 19e siècle. Et Durkheim ajoute, une similitude verbale a pu faire croire que l'individualisme dérivait nécessairement de sentiments individuels, partant égoïstes. En réalité, la religion de l'individu est d'institution sociale. Fin de citation. Donc, derrière le substantif individualisme, on cherche au fond une substance individuelle, l'individu. Et c'est assez fascinant parce que ça constitue, pour suivre Wittgenstein, qui écrit une trentaine d'années plus tard, que la confusion du substantif et de la substance est une des principales causes de la confusion philosophique. Donc, Durkheim avait bien vu les choses. L'individualisme consiste à attribuer une valeur égale à chaque individu, à soi-même comme à un autre, parce que l'égalité fait de tout homme un semblable. Mais il faut en même temps rendre compte de la croyance que l'individualisme détruit le lien social, etc., etc. Il faut rendre compte de la croyance dans la mesure où, en soulignant le côté destructeur de l'individualisme, elle nous révèle que la difficulté à faire société fait structurellement partie de l'individualisme et donc que ce dernier n'est pas un mal qui risque de la détruire inexorablement, mais bien plutôt, disons, je dirais, une formulation du problème de l'indépendance. De l'indépendance, donc, pour des êtres sociaux qui sont considérés comme des individus libres et égaux en nature. Alors, comment placer la crainte de la déliaison sociale, donc, qui hante nos croyances et qui se dit, donc, dans les mots de la souffrance sociale, de la pathologie sociale, du malaise? Donc, la crainte de la déliaison, c'est celle de la fin de l'interdépendance sociale, c'est-à-dire l'angoisse que chacun soit réellement séparé des autres, ce qui signifierait, bien sûr, la fin de la société et celle de l'individu. Or, il faut qu'il y ait une place pour ce jeu de langage. Il est nécessaire, mais il doit être combattu en permanence. Sans lui, nous ne pourrions vivre comme des individus, car il donne forme à une inquiétude propre à l'individualisme. Alors, pour expliciter ce dernier point, je vais faire comme une sorte de tout petit cours de commentaire sociologique, en me tournant d'abord vers Tocqueville, parce que dans De la démocratie en Amérique, il utilise, je pense, la crainte de la déliaison sociale pour donner à la difficulté à faire société une place à partir de laquelle elle pourrait à la fois être reconnue et combattue. Puis, je vais me tourner vers quelqu'un de plus contemporain, qui était l'anthropologue Louis Dumont, qui offre, je pense, une solution élégante et simple pour surmonter l'idée qu'il y a une opposition de nature entre l'individu et la société. Alors, je vais commencer par Tocqueville. Tocqueville nous dit donc que l'individualisme est créé par l'égalité qui accorde la même valeur à chacun indépendamment de sa condition d'origine, et dans l'un de ses plus célèbres chapitres, je me demande si c'est pas le premier, parce que j'ai pas mes références ici, c'est pas le premier chapitre du deuxième volume de la démocratie en Amérique, il prend soin lui aussi, donc une soixantaine d'années avant Durkheim, de distinguer cette notion de l'égoïsme. Je le cite, « L'individualisme est une expression récente qu'une idée nouvelle a fait naître. Nos pères ne connaissaient que l'égoïsme. » Alors, pourquoi est-ce que c'est une création de l'État social démocratique? C'est pas l'égoïsme. Et je continue à citer Tocqueville, « Les hommes qui vivent dans les siècles aristocratiques sont presque toujours liés d'une manière étroite à quelque chose qui est placé en dehors d'eux. La notion générale du semblable, qui est écrit en italique, semblable, la notion générale du semblable est obscure, hein, donc de la similitude des êtres, de leur égalité anthropologique, si vous voulez. Hein. La notion générale du semblable est obscure, et on ne songe guère à s'y dévouer pour la cause de l'humanité. Mais on se sacrifie souvent à certains hommes. Dans les siècles démocratiques, au contraire, où les devoirs de l'individu envers l'espèce sont bien plus clairs, le dévouement envers un homme devient plus rare. Le lien des affections humaines se détend et se desserre. Mais il précise tout de suite la chose suivante. L'individualisme constitue une maladie naturelle au corps social dans les temps démocratiques. Une maladie naturelle au corps social dans les temps démocratiques. En employant l'objectif naturel, Tocqueville veut dire qu'il n'y a là rien d'anormal. Hein. Bien au contraire. Je le cite encore, « Les sentiments et les idées ne se renouvellent, le cœur ne s'agrandit et l'esprit humain ne se développe que par l'action réciproque des hommes les uns sur les autres. » J'ai fait voir que cette action est presque nulle dans les pays démocratiques, hein, puisque les liens de dépendance, justement, sont détruits. J'ai fait voir que cette action est presque nulle dans les pays démocratiques. Il faut donc y créer... artificiellement. Fin de citation. Il faut donc donner aux êtres indépendants que sont les individus des occasions d'agir ensemble. Et l'opposition du naturel, mal naturel, et de l'artificiel, il faut trouver une solution artificielle, c'est un recours rhétorique permettant de dire que ce que l'on voit en premier, c'est l'être indépendant, l'individu, et en second, l'interdépendance, les relations, hein, la profonde dépendance humaine. Donc, en démocratie, il est naturel de rappeler à l'homme qu'il vit en société, précisément parce qu'il est un être indépendant. La démocratie, parce qu'elle rend l'individu libre en brisant la grande chaîne qui liait d'une manière étroite les hommes à quelque chose donc, qui est placé en dehors d'eux, pour reprendre Tocqueville, doit donc combattre l'individualisme. Tocqueville, en parlant de maladie naturelle, a montré la voie en considérant que la croyance en ce que la montée de l'individualisme équivaut à un affaiblissement du lien social est un trait naturel à la démocratie qui répond à des nécessités pratiques et non un mal qui la détruit inexorablement. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas donné la raison. Pourquoi? Parce que on ne peut avoir de société individualiste, là j'insiste sur l'adjectif, individualiste, c'est-à-dire de société qui donne la même valeur à chaque être humain indépendamment de ses origines, etc., etc., et donc sa chance au premier venu de se faire par lui-même. Donc on ne peut avoir de société individualiste si on ne brise pas les liens de dépendance entre les gens, hein, comme l'a fait la Révolution française, par exemple, en brisant les statuts. Mais on ne peut avoir de société en général, j'enlève l'adjectif, hein, mais on ne peut avoir de société en général si les gens sont séparés par l'abîme de leur liberté. Et c'est la tension démocratique même ou l'inquiétude individualiste qui se formule dans l'opposition entre individu et société. Et il est donc normal de rappeler à l'individu qu'il vit en société, comme par exemple, il est normal de rappeler à l'homme des sociétés lignagères, par exemple d'Afrique, hein, des sociétés qui se reconnaissent dans l'ancêtre commun, qu'il doit honorer ses ancêtres, ou à l'homme de la société de caste traditionnelle indienne qu'il doit préserver son degré de pureté. Simplement, pour comprendre cette vérité un petit peu plus complètement, je crois qu'il faut poser le problème de l'individualisme autrement que dans les termes d'une opposition à même niveau entre l'individu et la société. Hein. C'est-à-dire que cette représentation de l'individualisme en termes d'opposition souligne son aspect destructeur auquel il faut donner sa place. Hein. Et donc, parce qu'une telle représentation a quelque chose de vrai, mais de partiel. Elle est aveugle à un aspect central de la démocratie comme état social, c'est une expression de Tocqueville, ou comme mode de vie, que l'anthropologue Louis Dumont a mis en relief, c'est la hiérarchie. La hiérarchie. Alors, je ne peux pas rentrer dans trop de détails, parce que ce serait évidemment long, je vais résumer la pensée de Dumont, donc il le fait à partir de la société de caste indienne, c'est son grand livre, hein, Homo Hierarchicus, qui paraît en 1966, et qui inaugure, donc Dumont était né en 11, il est mort en 97, et à partir de 66, il va commencer à réfléchir et à publier sur l'individualisme moderne, à partir de ce qui lui semble être son opposé, qui est la société de caste, où la hiérarchie est une valeur suprême. Alors que nous, hiérarchie, c'est plutôt une valeur subordonnée, ça renvoie toujours à commandement, domination, oppression, etc. etc. Bon, alors, le raisonnement hiérarchie de Dumont permet de percevoir, je dirais, une complémentarité et au lieu d'une opposition ou. Et donc de dissoudre l'opposition entre individualisme et ordre social. Puisque, disons, poser une valeur, c'est poser une hiérarchie, en attribuant la valeur suprême à la liberté, à l'égalité des individus, nos sociétés subordonnent nécessairement toutes les valeurs qui concernent l'interdépendance sociale. En conséquence, la tension entre liaison et déliaison sociale n'est pas une contradiction, elle tient à ce que l'individu est érigé en valeur suprême, en être libre et égal, grâce au type d'interdépendance qu'il dénie simultanément. C'est-à-dire qu'on voit des contradictions à un même plan, là où il y a des différences de niveau. Il faut introduire des différences de niveau, qui sont donc des différences hiérarchiques. Dans la société individualiste ou démocratique, le niveau de l'interdépendance sociale, que Louis Dumont appelle le holiste, hein, c'est une valeur seconde. Elle est englobée dans la valeur supérieure, qui est individualiste, valeur de liberté et d'égalité. Donc englobée, ça veut dire qu'elle fait partie de la valeur englobante, suprême, hein, qu'elle est incluse en elle, mais à un niveau inférieur. Hein. Et sans l'existence de la valeur holiste, aucune société ne pourrait exister. Une société individualiste reposant sur la liberté et l'égalité des individus en soi ne peut pas tenir. L'interdépendance entre les hommes est donc aussi présente dans nos sociétés d'individualisme démocratique de masse que dans n'importe quelle société dite traditionnelle. L'individualisme contient nécessairement le holisme, il l'englobe à un niveau subordonné et ne le fait pas disparaître. C'est pourquoi la critique de l'individualisme est inhérente à l'individualisme. En rappelant que les hommes sont dépendants les uns des autres, elle permet de remettre au premier plan la valeur subordonnée de l'interdépendance sans affecter la valeur suprême de l'indépendance, c'est-à-dire les valeurs de liberté, etc. Bon. Et pour revenir en un mot sur, parce que j'arrive à ma conclusion, en un mot sur les deux récits de l'autonomie, la réaction républicaine et le nouveau progressisme individualiste, je pense qu'ils font partie de ces jeux de langage qui mettent en sens et en forme la difficulté à faire société. Ils sont l'expression de certains dilemmes de l'individualisme, Mais en tant que sociologie, ils demeurent en leur fond individualistes puisqu'ils n'intègrent pas cette dimension hiérarchique. La société a disparu, l'interdépendance a disparu, l'être ensemble a disparu, etc. La communauté est introuvable. Et de ce fait, ils ne distinguent pas entre la valeur englobante individualiste et la valeur englobée holiste. Et donc, les sociétés individualistes sont caractérisées par une tension structurelle entre liaison et déliaison sociale, et nous avons là un style d'inquiétude qui est caractéristique de nos sociétés. Nous avons besoin de jeux de langage pour formuler la difficulté à faire société. Les sociologies individualistes que j'ai évoquées plus haut sont de tels jeux de langage. Bon, c'est-à-dire au sens où elles mettent, encore une fois, en scène les tensions de l'individualisme en rappelant les valeurs de l'interdépendance sans mettre en cause celles de l'indépendance. Alors, je conclue très rapidement. La conséquence d'un tel changement de raisonnement est extrêmement concrète. Le discours du malaise confond un faux problème, qu'on va appeler celui de la cohérence sociale, avec un vrai problème, qu'on va appeler celui de la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'il voit une incohérence dans la modernité parce qu'il pense la vie en commun dans les termes individualistes de l'opposition entre l'individu et la société. Mais si on emploie l'alternative du raisonnement hiérarchique de Dumont, donc qui pose le fait fondamental que l'individualisme englobe sa valeur contraire, le holisme, en lui donnant une place subordonnée, du coup, eh bien, nos sociétés apparaissent aussi cohérentes que n'importe quelle société dite traditionnelle où, soi-disant, l'individu a son chemin tracé de la naissance à la mort. Donc, elles sont aussi cohérentes que n'importe quelle société traditionnelle. Simplement, il faut comprendre que l'institution des significations sociales, symboliques, qui donnent à chaque individu la même valeur, implique la subordination de l'interdépendance. Donc, cette position subordonnée peut certes conduire acteurs et observateurs à la perdre de vue. C'est même une attitude récurrente. C'est à ça que m'a servi la citation de Durkheim de 1906, qui aurait parfaitement pu être prononcée par quelqu'un d'aujourd'hui. Donc c'est une attitude absolument récurrente, mais c'est loin d'être une raison suffisante pour penser qu'elle a disparu et que nous ne faisons plus société. En revanche, nos sociétés sont bel et bien confrontées à des problèmes de cohésion sociale qui tiennent, quant à eux, à la perte d'efficacité des systèmes de protection et de lutte contre les inégalités et la pauvreté qui avaient été instaurés au cours du XXe siècle. Donc là, ça m'amènerait à faire un deuxième exposé sur les problèmes réels, si vous voulez, qui apparaissent, c'est-à-dire les problèmes de politique et de politique publique qui apparaissent au fond, qui sont dissimulés ou qui n'apparaissent pas dans le discours du malaise. Et en gros, ce que je dis, c'est que ce qu'on ne voit pas dans ce discours du malaise, qu'on ne fait plus société, etc., c'est une crise de l'égalité à la française, qui est une égalité exclusivement conçue en termes de protection, et une protection fondée sur le concept de statut au sens du statut de la fonction publique. Et c'est-à-dire, c'est notre façon d'envisager l'État-providence, comme d'ailleurs dans un certain nombre d'autres sociétés développées, on a affaire à une crise de l'État-providence du XXe siècle, mais il y a des leviers de l'action pour construire l'État-providence du XXIe siècle, avec, disons, des critères un petit peu différents de ceux que nous avons connus au XXe siècle. Je vous remercie.